La matinée des autres. Le jeu de Go par Annie Mancio et Paul Amar. Avec la participation de Pierre Aroutchef, Philippe Coppet, Pierre Decroix, Denis Feldman, Bernard Govy, Marc Kalinowski, Lim Yu Jong, Masumi Yoshida, Jacques de Panafieux.
Plusieurs légendes racontent la naissance du Go. On dit que l'empereur Yao, à moins que ce ne soit l'empereur Shun, inventa le jeu il y a plus de 4000 ans pour aviver l'intelligence d'un fils un peu demeuré. Ou bien qu'un vassal de l'empereur Kuei l'imagina pour distraire son suzerain. Pour d'autres, son origine est encore plus lointaine et liée à des activités divinatoires et à l'astrologie. Au commencement était le vide. À la fin, c'est encore le vide qui fera la différence.
Le Go est un jeu qui consiste à construire du vide avec du plein.
Le Go se joue à deux, avec des pions et un damier. Mais on ne dit pas un damier, on dit un goban. On ne parle pas de pions, mais de pierres. Le goban est quadrillé par 19 lignes horizontales et 19 lignes verticales. Les points de rencontre des lignes définissent 361 intersections sur lesquelles seront posées les pierres.
Les gobans traditionnels sont faits d'un bloc de bois épais, légèrement creusé pour faire ressortir la qualité sonore et la résonance des coups.
Des bois les plus fréquemment employés au Japon sont kayanoki, ichonoki et hinoki.
Les pierres sont noires et blanches. Elles ont la forme de lentilles convexes.
Si l'on veut respecter la coutume, les pierres blanches devront être en nacre, les noires en ardoise.
Au commencement du jeu, le goban est vide.
Le joueur qui a les noirs pose la première pierre sur l'une des 361 intersections, son adversaire pose une pierre blanche sur une autre intersection, et ainsi de suite.
Une pierre, une fois posée, ne sera jamais déplacée. Elle restera où elle est jusqu'à la fin de la partie, ou bien sera capturée et retirée du goban.
Mais la capture n'est pas le but du jeu.
L'objectif de chacun des joueurs est de constituer des territoires délimités par ses propres pierres.
Territoires à l'intérieur desquels les pierres adverses ne pourront pas vivre.
Sans cesse, au cours de la partie, la vie et la mort sont en balance.
Les pierres sont une matière inerte et immobile.
Les territoires sont des espaces mouvants et vivants.
Le Go construit du vide avec du plein.
On dit qu'un groupe de pierres est vivant lorsqu'il contient au moins deux intersections définitivement vides.
À la fin de la partie, ce sont les intersections vides qui feront la différence.
Le vide vainqueur est plus grand que le vide vaincu.
Et maintenant, comment enseigne-t-on le Go?
Pour apprendre, il faut regarder.
Moi, j'ai l'expérience de l'apprentissage du Go à des enfants qui avaient entre 7 et 8 ans.
Bernard Govy.
Ensuite, bon, je les ai suivis jusqu'à ce que certains aient une douzaine d'années. Je connais personnellement des enfants qui ont appris à jouer entre 4 et 5 ans. Mais c'était des enfants de joueurs. Donc, ils avaient eu l'occasion de voir le matériel, de voir des gens jouer. Et à la limite, ils n'avaient pas besoin d'apprendre les règles. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pendant très longtemps au Japon, en Corée. Puisque les premières règles écrites du jeu de Go ont été écrites après la guerre, au moment
après
où...
Après la dernière guerre.
Oui, après la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il y avait une demande des Occidentaux. Mais à vrai dire, jusqu'à présent, on ne s'était pas tellement préoccupé de ça. On s'aperçoit d'une chose, c'est que des enfants, si on les a individuellement qui sont habitués au jeu, ils peuvent, à partir de 4 ou 5 ans, apprendre à jouer. Si on les prend par groupe, ce que je faisais, puisque je prenais des enfants par groupe de 8 à peu près, par petite tranche de temps, puisque c'était pendant la classe et on sait que les enfants de 7-8 ans, ils peuvent se concentrer environ 20-25 minutes, et puis après ça devient assez difficile. Donc par petite tranche de 20 minutes, eh bien j'arrivais à leur apprendre à jouer assez rapidement. Par contre, si je leur demandais d'expliquer les règles, en général ils étaient incapables. Et ça arrive encore souvent, par exemple à des collégiens, que je leur dise, bah tiens, toi tu sais jouer, tu peux peut-être lui expliquer les règles. Et bon, au bout de 2 ou 3 minutes, on s'aperçoit que ça leur est difficile. Ça leur est naturel de jouer, Mais l'explication n'est pas si simple.
Donc l'apprentissage du go met en jeu à la fois des facultés intellectuelles et quoi ?
Oui, enfin, je crois que c'est Pierre Arouchev dans un de ses livres qui disait que il n'y avait pas seulement la tête qui jouait, mais il y avait aussi l'œil et la main. D'ailleurs, c'est souvent des mauvais coups que ça peut être même le pion qui joue.
Justement, à propos du regard, est-ce que on peut dire que ce regard est un regard qui a quelque chose d'esthétique ou que ce regard est quelque chose de scientifique? Est-ce que c'est le regard de l'architecte ou celui du peintre?
Il y a forcément un côté, comme on dit dans le jargon, combinatoire dans le regard qu'on pose sur une situation. C'est vrai qu'il faut combiner, se dire, bon, si je joue là et qu'il joue là, il va faire ça et là. Et puis, ça va se terminer bien pour moi ou pas. Mais on sait aussi que quelqu'un qui sera très fort en combinatoire peut très bien être un joueur relativement médiocre s'il n'a pas une sorte d'intuition. Et cette intuition est très visuelle. Mais je sais qu'il arrive régulièrement à des gens de jouer des coups sans trop savoir pourquoi, mais avec une sorte de sentiment que c'est bien. Ça peut être parce que c'est joli en plus, mais ça peut aussi être parce qu'il leur semble que c'est comme ça. On leur demanderait de le justifier. Il serait souvent incapable. Les bons coups en général sont esthétiques, oui. Mais le meilleur coup n'est pas forcément esthétique. J'ai l'impression que pour des gens qui connaissent comme jeu stratégique les dames, les échecs, le but, que ce soit consciemment ou inconsciemment, c'est-à-dire même si on leur dit que le but du jeu n'est pas de détruire l'adversaire, ils pensent que c'est ça quand même, que le but c'est d'arriver à tout lui ratisser, et puis après, bah, on verra. Et il faut arriver à dépasser ce stade et qu'ils s'aperçoivent que ce n'est pas une bonne stratégie au go d'essayer de prendre les pions d'adversaire. À la fin de la partie, on aura partagé quelque chose. Simplement, on essaie d'être plus astucieux dans le partage que l'autre.
Mais une certaine agressivité est tout de même nécessaire pour jouer au go.
D'abord, il y a ce côté « je te bouffe, je vais te bouffer », donc c'est très agressif ça. Mais paradoxalement, il arrive assez souvent qu'en fin de partie, quand les frontières sont là, qu'on a rendu les prisonniers et qu'on est en train de compter, on demande à un des joueurs, alors il a perdu, il est tout content, mais combien tu as de points? Et il compte les points de l'autre, et il dit j'ai tant de points. C'est-à-dire que dans la bagarre, ils sont très agressifs, et puis arrivé en fin de partie, bah, soudain ils se retrouvent dans une situation où ils ne savent plus très bien s'ils ont les blancs ou les noirs.
Le fait de poser une pierre sur le crâne, c'est une expression, c'est pas une expression, c'est un langage.
Et le go est structuré comme un langage, je veux dire qu'il y a vraiment un côté lacanien de la chose, et il y a des conséquences d'ailleurs assez marrantes qui font que, effectivement, je pense que c'est la raison pour laquelle les enfants apprennent à jouer si jeunes.
Denis Feldman.
Dans les conditions, bien sûr. Mais de fait, il se trouve que l'âge de l'apprentissage du go est l'âge de l'apprentissage du langage pour les professionnels.
Ah, bon.
Et on a des exemples quand même suffisamment nombreux pour que ça ne se relève pas exactement du secteur enfant prodige, de gens ayant appris à jouer au go avant de savoir parler.
Bah oui,
de gens
Shizu, paraît-il.
Oui, ou Shizu. Shizu me l'a dit à moi, alors là, il n'y a vraiment pas de doute, je veux dire, c'est un témoignage direct où Shizu m'a expliqué qu'effectivement, elle ne se rappelle pas de quand elle a appris à jouer et qu'elle savait jouer avant de savoir parler. Et on a affaire souvent à des cas de jeunes joueurs. Bon, peut-être pas des cas aussi prodigieux chauds qui étaient très forts dès 4 ans, mais on a des joueurs de 6-7 ans qui sont déjà de très forts amateurs.
Ils ont donc compris que la capture au go n'est qu'un moyen et non une fin. Ils ont compris aussi les règles de la vie et de la mort. Et qu'est-ce que la mort au go? C'est l'encerclement et l'étouffement. Lorsque les quatre intersections qui entourent une pierre, on dit les quatre libertés, sont occupées par l'adversaire, la pierre est capturée et retirée du goban. Et cette règle s'applique non seulement à une pierre isolée, mais également à un groupe de pierres. Pour vivre, un groupe doit posséder au moins 2 intersections définitivement vides. On dit 2 yeux. En effet, comme l'adversaire ne pourra jamais jouer simultanément sur ces 2 points, il ne pourra plus tuer le groupe. Les premières mentions écrites concernant le Go datent du 7e siècle avant notre ère. Elles fleurissent ensuite dans les différentes provinces de la Chine et Confucius en parle sans indulgence.
Zhongil Poshi Muso Yongxin Nan O Tse Puryu Bak Yi Tsa O Weiji Yushun O Yi O Yi.
Petite tête, elle mange toute la journée. Rassasiée, elle ne fait rien. Pour elle, le go est un bienfait.
Sun Tzu, lui, appuie sur le Go les 13 articles de son traité de stratégie militaire. On y retrouve l'une des notions de base du jeu, inspirée par les préceptes du Yi King cité par Lim Yu Jong dans un article intitulé précisément « Le Go et le Yi King ». Combattre n'est pas toujours bon, il est préférable de gagner sans faire la guerre. Il faut attendre le milieu du 8e siècle pour voir le Go débarquer au Japon. Dans le petit traité invitant à la découverte de l'art subtil du Go, Luçon, Pérec et Roubaud en parlent comme d'un jeu reçu de la Chine en même temps ou presque que l'écriture, le bouddhisme, les règles de l'administration des provinces et l'étiquette de cour. Longtemps, le Go restera le privilège de la classe dirigeante. Au XIIIe siècle, les gobans et les pierres étaient considérés comme des articles essentiels de l'équipement militaire que les samouraïs emportaient sur les champs de bataille.
Jacques de Panafieux.
J'ai lu que dans les temps du Japon médiéval, les seigneurs de la guerre avaient chacun leur maître de go attitré et que ces joueurs se rencontraient quelquefois et pendant au moins un mois, ils jouaient une partie en mettant effectivement le maximum d'attention et de vigilance sur chaque coup. Et à la fin du mois de jeu, il y avait un vainqueur et qu'ensuite, ils se présentaient devant les deux cours réunies et reconstituaient en l'espace d'une heure ou deux la partie qu'ils avaient mis effectivement un mois à jouer.
Il n'en reste pas moins que la stratégie militaire a été jusqu'à l'époque contemporaine le champ d'application privilégié des principes enseignés par le Go.
Le général de division, directeur général du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, a Monsieur le Premier ministre, compte rendu, objet, satisfaction aux deux demandes exprimées par votre lettre manuscrite du 4 dernier. L'intérêt constamment porté par le SDES aux personnes faisant un commerce illicite de jeux de Go tient essentiellement à la possibilité d'une opération Weichi. Dans certaines circonstances, la pratique assidue du jeu de Go ou Weichi peut être considérée comme un entraînement intellectuel, moral et psychologique au métier des armes, à l'étude de la stratégie moderne et même à la guerre secrète. Toute personne avertie sait par exemple que des figures telles que le Ko, le Seki et surtout le Shisho constituent ce qu'il ne faut pas craindre d'appeler de redoutables armes mentales. Ainsi, le SDES a-t-il considéré qu'une importante importation clandestine de Goban et une vulgarisation de la pratique du Go sur le territoire français étaient susceptibles de nuire à la défense nationale et à la sécurité de l'État. Alain Guérin, Un bon départ, Christian Bourgois, Paris.
Cité par Pierre Luçon, Georges Pérec et Jacques Roubaud. De la stratégie militaire à la stratégie de marketing, il n'y a qu'un pas, mais il n'a été franchi que très récemment. Pierre de Croix, vous vous êtes intéressé particulièrement aux analogies qui existent entre le jeu de Go et la stratégie d'entreprise. Comment cette idée vous est-elle venue ?
Eh bien, d'une part, d'une certaine expérience professionnelle, puisque je me suis occupé de stratégie d'entreprise pendant pas mal d'années, et j'ai également collaboré au CPA, le Centre de perfectionnement aux affaires, en élaborant des cas de stratégie d'entreprise, de diverses stratégies. Vous avez dit la stratégie d'entreprise, je préfère dire les stratégies d'entreprise, parce qu'il y a stratégie générale, des stratégies de fonction, stratégie de marketing, stratégie industrielle ou financière ou autre. Et toutes ces stratégies peuvent très bien trouver un élément de réflexion, un aliment à la fois d'analyse et de principe d'action dans les stratégies d'Hugo. Or, au départ, la stratégie d'Hugo a été surtout connue par ses applications militaires. Vous savez par exemple que pendant de nombreux siècles au Japon, il était interdit d'apprendre à jouer au go si on n'était pas samouraï ou à la rigueur moine, parce que les moines apportaient l'élément de réflexion et de méditation qui enrichissait la théorie et la pratique du go. Mais pourquoi est-ce que ce jeu était réservé aux classes dirigeantes? C'est parce que justement on ne voulait pas que n'importe qui puisse apprendre non seulement les principes de gouverner mais aussi les principes du combat. Et notamment, il est paru il y a quelques années un livre qui s'appelle Go et Mao, et quel que soit le mérite du jeu de mots, ce livre a l'intérêt de montrer à la lumière des principes du jeu de Go toutes les stratégies de Mao Tse-tung pendant ses campagnes qui l'ont amené à la prise du pouvoir en Chine. Et ce livre définit et analyse les différentes phases de la conquête de la Chine par Mao à la lumière des principes du Go. Et comme vous le savez certainement, beaucoup de stratégies d'entreprise, et en particulier les stratégies de marketing, font fréquemment référence à des stratégies militaires, ne serait-ce que par le vocabulaire. Déjà, l'emploi du terme stratégie est révélateur. Et puis, ce sont des stratégies d'attaque, de défense du territoire. Chaque fois qu'il y a concurrence, il y a combat. Et qui dit combat, dit inspiration, qu'on le veuille ou non, basée sur une expérience ou une pratique militaire.
Oui, effectivement, dans le Go, on parle d'encerclement, on parle d'invasion, on parle de parachutage, autant de termes militaires qui sont utilisés également dans les stratégies de marketing.
Et le Go, c'est le premier point des concepts intéressants d'application du Go dans les stratégies d'entreprise, c'est précisément cette conception qu'il faut construire, et construire dans un environnement éventuellement difficile, mais construire sans éliminer l'autre.
Le Go nous rapproche d'une situation extrêmement courante dans le milieu des affaires, où un certain nombre de produits sont en concurrence et où un nouveau venu aura toujours le handicap d'être nouveau.
L'un des intérêts du Go, c'est la possibilité d'utiliser des handicaps. Ce qui, entre parenthèses, fait un des intérêts du jeu, c'est-à-dire que deux joueurs de force inégales peuvent se mesurer avec des chances égales de succès. Alors comment est-ce qu'on procède? Eh bien, le joueur le plus faible, qui par tradition a les pierres noires, place au début de la partie un certain nombre de pierres sur des points stratégiques du Goban. Son adversaire va donc se trouver devant des forces déjà installées. Et il faut qu'il adapte sa stratégie à cette situation. C'est-à-dire qu'il va tenir compte de ses forces déjà installées dans ses attaques, dans la façon dont il va constituer lui-même ses territoires potentiels, tout en réduisant les territoires de l'autre. Il faut bien qu'il prenne son espace sur un espace déjà partiellement occupé. L'espace de manœuvre, il faut s'arranger pour qu'il soit le plus vaste possible et essayer de ne pas se mettre dans des situations où on aura à subir des contraintes. J'ajouterai également le concept d'influence qui est parmi les principaux concepts du Go. L'influence, c'est comment préparer l'avenir sans pour autant négliger le présent. Quand on voit des parties de professionnels de haut niveau, il y a quelquefois on se dit « mais pourquoi a-t-il joué là ?» Et puis une demi-heure ou deux heures après, selon la durée de la partie, on comprend pourquoi il a joué là. Le concept de connexion aussi. Alors il y a des connexions physiques, ponctuelles. Deux pierres posées l'une à côté de l'autre sur la même ligne sont connectées, mais il y a aussi des connexions virtuelles. Et tout l'art de la stratégie d'un début de partie, c'est de placer des pierres de telle façon que, sans être trop rapprochées les unes des autres, ce qui délimiterait des territoires trop petits, elle implique quand même une connexion virtuelle qui pourra se concrétiser plus tard. Un autre point important, c'est le concept des points vitaux. Le point vital d'une formation, enfin d'un groupe de pierres, c'est celui où il faut jouer pour éviter que l'adversaire n'y joue avant vous, si c'est dans votre propre territoire, ou là où on pourra créer le maximum de problèmes à l'autre en y jouant le premier. Et ça, ça demande souvent beaucoup de réflexion. Concept de flexibilité, il faut adopter une stratégie souple, c'est-à-dire qui soit adaptable en fonction des mouvements de l'autre, en fonction de l'évolution d'une situation, qui peut être une situation globale, qui peut être une situation ponctuelle, se réserver la possibilité d'adapter sa stratégie, parce qu'on n'est pas tout seul à jouer.
Il y en a d'autres ?
Oui, concept d'économie et d'efficacité, par exemple. La meilleure utilisation de l'espace et du temps, si on joue des coups trop petits, c'est un gaspillage de moyens. Si on joue des coups trop larges, ça peut aussi être un gaspillage de moyens parce que ça laisse trop de possibilités à l'adversaire de vous envahir ou de vous créer des problèmes. Que tout ça forme un ensemble cohérent de concepts. Hein, parce que adopter une stratégie flexible, ça n'a pas de sens si c'est une stratégie qui n'a pas été bien définie. Garder l'initiative, ça n'a pas de sens si cette initiative tombe dans le vide. Et si elle ne correspond pas à des coups efficaces. D'ailleurs, dans ce cas-là, l'adversaire aura tôt fait de reprendre l'initiative. Donc, on a un ensemble de concepts qui sont tous les uns pris isolément, qui peuvent apparaître comme des truismes. Mais ce qui fait l'intérêt et la force de la stratégie du Go, c'est l'ensemble cohérent que forment tous ces concepts et qui, lorsqu'on les applique de façon méthodique, systématique, donne des stratégies gagnantes.
Masumi Yoshida.
La base est très simple. On peut construire vraiment n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. C'est impressionnant, mais si on veut construire un ballon qui se balade dans l'air, on peut construire sur le Gobain.
Oui.
La cathédrale Notre-Dame et la tour de Pisa, on peut tout construire.
Les hommes, en particulier ceux qui font appel à vous, Jacques de Panafieux, en tant que psychothérapeute, mais peut-être tous les êtres humains, ont une curieuse tendance qui consiste à transformer la réalité pour qu'elle corresponde à leurs idéaux ou à leurs rêves. Au Go, est-ce un handicap ou est-ce un avantage ?
Bon, je dirais qu'il y a un premier aspect qui est celui de considérer la situation telle qu'elle est. Mais la notion de situation, c'est une notion très floue, ambiguë, et qui peut vous conduire tout à fait à côté de la plaque. La situation, c'est ce qu'on va en tirer, en réalité. Il y a cet aspect de considérer la réalité telle qu'elle est, mais de la considérer d'un point de vue créateur.
Et dynamique.
Et dynamique. C'est la situation, c'est ce que nous allons faire à partir de ce qui nous est donné. Chaque pierre a un sens par rapport à l'ensemble des autres pierres posées ou à poser. Ça veut dire que même si la pierre est posée dans un coin, à une place déterminée, sa signification peut changer à tout moment du fait de la configuration d'ensemble. C'est de cette façon que le statique et le mouvement sont combinés sur le Gobain.
Oui, avec également l'hypothèse de l'encerclement possible de l'adversaire.
Eh oui, là, il y a ces notions qui sont vraiment très importantes et que j'ai abordées un peu dans mon expérience de la peinture. Dans mon expérience de la peinture, j'étais tout à fait fasciné par l'interpénétration des formes et la façon dont le fond pouvait devenir figure et la figure devenir fond selon le regard du spectateur. Et donc, c'est une notion que j'ai retrouvée et qui explique peut-être la fascination que j'ai éprouvée pour le jeu de Go au départ. Dans le fait que chaque territoire pouvait se trouver encerclant ou encerclé, offensif ou défensif, selon l'évolution du jeu. Et le damier peut même se projeter dans la réalité quotidienne. Je me souviens que mon fils, quand il avait Jean-Baptiste, qui avait 13 ou 14 ans, qui commençait à jouer au go, et il racontait que dans la rue, sur un trottoir, quand il avait trois passants qui occupaient déjà trois libertés sur les quatre, il se dépêchait de changer de trottoir. Donc il y avait eu une projection du jeu dans la réalité quotidienne, et tout devenait jeu de go.
Au plus profond de la nuit, le plafond devient goban.
Quelles sont, Jacques de Panafieux, les qualités pour être un bon joueur de go?
Bon, il y a un des aspects dont nous en avons parlé et qui est cette... cette équanimité, le fait de pouvoir se détacher à chaque instant de tout le passé de la partie et de la considérer comme si elle venait de commencer.
Vivre le moment présent, c'est très zen, vraiment, en fait, ça.
Oui, de vivre le moment présent. Dans le vocabulaire et dans la pratique de la psychanalyse, entre autres, le concept de résistance, de la résistance au changement, de la résistance au thérapeute, de la résistance à la thérapie, c'est un concept clé. Et dans le jeu de Go, il y a une indication très précieuse qui est donnée, c'est ne pas vous approcher des points forts, des points de résistance de l'adversaire. Parce que en les chatouillant, en les attaquant, vous allez les renforcer. Dans ma pratique de la psychothérapie, c'est une chose à laquelle je fais très attention, c'est d'éviter de renforcer la résistance, mais de créer un mouvement ailleurs qui fait que le pôle de résistance va être circonvenu, en quelque sorte, sans qu'il ait la possibilité de se renforcer. Et puis, il y a la création. Je crois le fait d'imaginer et de combiner à... Quelquefois, les combinaisons sont tellement complexes que c'est le sens esthétique qui vient remplacer la raison. Parce que l'esprit raisonnable ne pourrait pas tenir compte de toutes les possibilités qui sont présentées. Et l'œil, par contre, peut sentir en quelque sorte le point qui va être le point crucial du développement de la partie.
Le vocabulaire du Go est extrêmement imagé et varié. Il y a par exemple ce mot japonais d'aji, qui signifie arrière-goût. Comment est-ce que vous comprenez cet aji?
Bon, c'est une pierre qui est laissée en quelque sorte en suspens et qui va forcer l'adversaire soit à perdre du temps pour la neutraliser, soit, s'il ne la neutralise pas, à rester en permanence sous la menace de son potentiel. C'est comme si cette pierre, avec son aji, grignotait en permanence un peu de l'attention du partenaire. Elle est dans un coin de son esprit et peut-être qu'elle l'empêche de développer complètement ses possibilités stratégiques parce que son attention ou son sens créatif est un peu endommagé, en quelque sorte, par le risque que présente ce petit... comme une piqûre de moustique qui viendrait gêner un escrimeur.
Oh, c'est extraordinaire à quel point, justement, ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure, à quel point le champ apparent est en relation avec le champ intérieur. La pierre, elle est sur le goban, elle est pratiquement morte ou à peu près, et pourtant, c'est dans... la tête de l'adversaire, qu'elle fait des dégâts épouvantables. Non, mais quelquefois, ça peut arriver.
Bon, c'est cette notion du champ de conscience. Bon, c'est une notion très importante. Au début, enfin, à la fois le champ de conscience et le champ d'attention sur le damier. Au début, pour les débutants, les joueurs de cours débutants, ce sont finalement des bagarres de cours de récréation. C'est-à-dire... on ne peut voir qu'un espace de quelques une dizaine d'intersections peut-être. Et c'est comme Fabrice dans la Chartreuse de Parme, oui. Ce qu'il a vu de la bataille de Waterloo. Bon, quelques escarmouches incompréhensibles. Et puis au fur et à mesure de l'expérience, le joueur va commencer à élargir son champ de vision.
C'est donc, au fond, dans le champ d'attention que se déroule le combat.
Je doute qu'on puisse trouver un précédent aux cérémonies qui marquèrent le début de la dernière partie du maître. Noir ne joua qu'un pion, blanc un pion. Ensuite, il y eut un banquet. Le 26 juin 1938, les pluies de saison connurent une accalmie. De légers nuages d'été flottaient dans le ciel. Les pluies avaient lavé la verdure du jardin. De violents rayons de soleil faisaient luire les feuilles de bambou ébouriffées. Assis devant le tokonoma, dans le salon du bas, se trouvaient donc Onimbo Shuzai, maître de Go, et son adversaire, Otake, septième dan. On comptait en tout 4 maîtres dans l'assemblée. 3 vénérables champions de Go, 7e dan, Onada, 6e dan, l'un des juges, puis plusieurs disciples du maître. Tous portaient des vêtements de cérémonie traditionnelle. Chacun sentait l'angoisse l'étreindre pendant qu'au centre on préparait le damier. Les petites particularités du maître devenaient très évidentes dans ces cas-là. L'affaissement de l'épaule droite et cette maigreur des genoux. Otake, les yeux clos, balançait la tête d'avant en arrière ou de droite à gauche. L'éventail serré dans le poing, le maître se leva. Il empruntait tout naturellement l'attitude d'un samouraï qui saisit sa dague. Il s'assit devant le damier, les doigts de la main gauche glissés dans le hakama, la jupe de cérémonie. L'autre un peu fermé, il leva la tête. Le regard droit, Otake prit place en face de lui. Après s'être incliné devant son adversaire, il saisit le bol rempli de pions noirs sur le damier pour le poser à sa droite. Il salua pour la seconde fois, puis immobile, ferma les yeux. « Si nous commencions, dit le maître pressant. »
Kawabata Yasunari, le maître de Go. Denis Feldman.
Tous les défauts psychologiques, toutes les possibilités psychologiques d'un joueur vont pouvoir se refléter sur le Go. Pratiquement, il n'y a pas un trait de caractère qui ne gênera pas tôt ou tard un joueur donné dans sa vie de joueur de Go, que ce soit au niveau technique, où il va avoir tendance à jouer certains types de mauvais coups répertoriés parce qu'il a plus ou moins peur, ou qu'au contraire, il n'en a pas assez, parce qu'il méprise son adversaire, ou parce qu'au contraire, il le respecte trop, et ainsi de suite. Ou bien parce que les différents traits de caractère classiques vont l'emporter dans des mauvaises façons de se comporter. Alors on peut trouver des tas de choses, on peut trouver des problèmes liés à l'orgueil, des problèmes liés à la colère, des problèmes liés à la paresse. Et pratiquement tout se reflète. C'est un jeu qui est extrêmement complet de ce point de vue-là, c'est ce qui le rend tellement fascinant. Et où en pratique, eh bien, la psychologie d'un joueur se lie complètement sur sa façon de jouer.
Le contrôle concret de ce qui se passe sur le Goban est-il en relation avec le contrôle intérieur du joueur sur son propre psychisme, sur ses propres réactions ?
Difficile à dire. Parce qu'il faut bien reconnaître que le Go a une vie propre et que les pierres nous entraînent souvent là où on ne voudrait pas. Je suis en train une fois plus de citer des professionnels. Donc c'est difficile à dire. Il faut bien reconnaître qu'il y a des parties où les deux joueurs ont perdu tout à fait le contrôle de ce qui se passe. Pas du tout le contrôle de leur état d'esprit, les pauvres. Ils sont bien obligés ensuite de chevaucher le tigre parce que ça présente souvent cet espoir. On a souvent l'impression de chevaucher un tigre quand on joue au Go à certains moments. Et bon, il ne faut pas lâcher, le premier qui lâche se fait manger, mais de fait, il n'y a pas de problème. Ce qui est curieux, c'est qu'on chevauche à deux, et Et c'est vrai que ça, c'est une dimension un petit peu spéciale. Et quand un seul des joueurs perd le contrôle, c'est déjà pas triste, mais il arrive parfois que les deux joueurs perdent complètement le contrôle, y compris à niveau professionnel, et qu'il arrive absolument n'importe quoi sur le terrain, n'importe quoi.
Est-ce que le maître de Go de Kawabata reflète la physionomie d'une partie ?
Oui, je pense. Ce qui est faux, incontestablement, ce qui est manifestement romancé, c'est, je dirais, ce qui se passe sur le terrain à proprement parler. Parce que ça, non seulement il n'en sait rien, mais il serait bien en peine.
Donc pas un bon joueur de Go, Kawabata.
Mais quand bien même. Kawabata n'est pas un très bon joueur de Go, mais de toute façon, quand bien même, ça serait un très fort joueur. Enfin, amateur s'entend. Bon, c'est
oui,
professionnel, c'est autre chose. Mais pour un fort amateur, ce qui se passe dans la tête d'un professionnel, surtout dans les parties de ce genre, qui en plus une partie très calme, très lente, donc ils ont énormément de temps de méditation, justement. Ce qui se passe dans la tête d'un professionnel, non, c'est pas du tout racontable. Enfin, c'est pas racontable. Disons que le problème est un peu de même nature que d'essayer d'expliquer ce qui se passe dans la tête de Bach quand il improvise une fugue à six voix au clavier. Bon, ben, évidemment, autant qu'on a le produit fini, donc on n'a même pas. C'est tordu de ce point de vue-là, le Go. On voit bien ce qu'ils ont joué. Et à la limite, on peut très bien voir qu'effectivement, 100 coups plus tard, les choses se déroulent comme effectivement, et depuis le début, on se doute bien qu'ils les avaient envisagées. Mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête ? Quel processus mental qui permet ce genre de virtuosité ? Non, je crois que c'est pas la peine de rêver. Quoi. On peut faire des analogies, c'est même vivement recommandé, mais la réalité, je crois qu'elle est inaccessible. Mais par contre, la dimension, je dirais, émotionnelle, oui, elle est tout à fait... D'autant qu'il les connaissait bien tous les deux, qu'il les a... Oui, je crois que c'est tout à fait correct à ce point de vue-là, et en particulier, par exemple, quand il explique les réflexions du maître sur le côté, voilà, il a joué ce coup-là, et c'était un coup qui était mauvais, et ça a gâché la partie, jusque là, on composait une œuvre d'art ensemble, et maintenant, c'est une cochonnerie, ça m'intéresse plus de la continuer. Après, je crois que c'est tout à fait... C'est une vraie histoire, enfin, il n'y a pas du tout de problème, il l'a sûrement dit, et il l'a dit 3 jours après, enfin, alors que sur le terrain, il a évidemment rien manifesté, et il s'est trompé en plus. C'est une erreur historique. Enfin, en fait, il s'est senti offensé par le coup alors que le coup était correct. Et ça, c'est un exemple où finalement, et quand tout est dit, on a affaire à une faiblesse humaine. Et en plus, c'est pour ça qu'il a perdu la partie, ce qui fait que tout colle. On a vraiment un modèle typique d'un exemple où la colère l'a emporté. Et c'est pas la première fois qu'un joueur, même au sommet, perd une partie parce qu'il s'est mis en colère et qu'il faut jamais se mettre en colère, c'est sûr. C'est certainement une des...
Mais c'est justement une des particularités du jeu de Go que ça peut mettre en colère
oui,
quelqu'un.
Absolument.
Je pris conscience de quelque chose d'inhabituel. Avions-nous suivi le maître à table ? Nous avait-il invité à l'accompagner ? Je ne sais. Mais enfin, nous nous trouvions dans sa chambre. Et tandis que nous prenions place, il dit d'une voix basse mais intense. La partie est jouée, monsieur Otake l'a gâchée par son coup scellé, comme s'il avait barbouillé d'encre un tableau que nous aurions peint ensemble. À l'instant où j'ai vu cela, l'envie m'a pris de renoncer, de lui dire qu'il passait la mesure. J'ai pensé que vraiment je devrais abandonner, mais j'ai hésité. Alors voilà. Nous gardâmes le silence. Un coup pareil. Et pourquoi, grondait le maître ? Parce qu'il comptait bien passer les 2 jours à y réfléchir. Quelle malhonnêteté ! Nous ne disions rien. Nous ne pouvions ni exprimer notre assentiment, ni tenter de défendre Otake, mais notre sympathie nous portait vers le maître. Je n'avais pas mesuré, lors de l'incident, sa colère, sa déception, telle qu'il avait envisagé de renoncer. Devant le damier, ni son visage, ni ses manières n'avaient rien laissé transparaître. Aucun d'entre nous n'avait perçu son angoisse. Notre attention s'était fixée sur Hiawatha, bien sûr, tandis qu'il se perdait avec le diagramme et le coup scellé. Nous n'avions pas regardé le maître. Celui-ci, pourtant, avait joué blanc 122 en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, en moins d'une minute. Voilà pourquoi nous n'avions rien remarqué. Cette minute n'avait certes pas commencé juste à la seconde où Hiawatha découvrait l'emplacement du 121. Cependant, le maître était parvenu à se dominer en très peu de temps, conservant ensuite cette maîtrise de soi pendant toute la session. Entendre ces paroles de colère alors qu'il avait joué le coup suivant avec tant de feinte indifférence me fut une surprise brutale. J'y sentis la tension concentrée du combat mené de juin jusqu'en décembre. Le maître avait composé son tournoi comme un esthète. Il lui semblait qu'on venait de barbouiller de noir cette œuvre, une œuvre d'art en somme, au moment le plus dramatique. Le jeu du noir sur le blanc, du blanc sur le noir, aussi délibéré qu'une œuvre créatrice en emprunte les formes. Le courant de l'esprit s'y retrouve, une harmonie qui s'apparente à celle de la musique. Tout est perdu quand retentit une fausse note, quand l'un des musiciens se lance seul et sans prévenir dans une cadence excentrique. Un des adversaires insensibles aux humeurs de l'autre peut gâcher une partie parfaite. Ce noir 121 cause d'étonnement, de stupéfaction, de doute et de méfiance pour nous. Rompait indéniablement le rythme et l'harmonie de la partie.
Le nom chinois du Go est Weishi, jeu d'encerclement. Mais il existe des appellations encore bien plus imagées, telles que parler avec les mains, oublier les soucis du monde, s'asseoir profondément, jouissance dans une mandarine, le héron et le corbeau, le manche de hache pourri. Cette dernière appellation vient de l'une des histoires les plus connues que l'on raconte sur le Go.
Un bûcheron, Wang Che, s'attarda certains jours à regarder des génies qui jouaient au Go et s'aperçut, quand la partie fut finie, que le manche de sa cognée tombait en poussière. Des siècles avaient passé.
A été considéré comme un des quatre arts impériaux.
Avec
la calligraphie, la peinture et la musique. Comme un art, le Go avait coulé un grand océan d'encre dans l'écriture ainsi que dans la tradition orale en Asie, en Chine, en Corée et au Japon. L'origine d'un art est préhistorique. Il n'est aucunement possible de fixer l'origine de la musique du monde. Non plus, l'origine de la peinture, on ne peut pas fixer. Non plus, sur le goût.
Le Go est le plus simple des jeux du monde.
Philippe Coppet.
Il allie des éléments comme le bois et la pierre, des formes comme le cercle et le carré, le blanc et le noir. Toutefois, pour éviter la monotonie, il est de bon ton de ne pas poser ses pierres très exactement sur l'intersection, mais de temps en temps, pas tout le temps, de temps en temps, un petit peu à côté. Et il ne faut pas les remettre à leur place. Il faut les laisser un petit peu en dehors de l'endroit où elles devraient se trouver, de manière à ce que l'ensemble donne un effet artistique. Et également, de temps en temps, lorsque vous allez jouer un coup particulièrement important et dont vous êtes sûr, il est bon de faire claquer votre pierre sur le goban. À ce moment-là, il est important d'avoir un goban très épais en bois, si vous avez les moyens de vous l'offrir, car le son est tellement plus beau. Je regarde les fêtes et j'observe que une proportion relativement importante de joueurs de Go aime la musique ou joue de la musique. Si je prends l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach et que je lis le livre de Chaillet sur l'analyse de l'art de la fugue, on s'aperçoit que Chaillet essaye de retrouver dans l'art de la fugue une structure générale de l'ensemble de l'œuvre. analyse une fugue de l'art de la fugue, on est déjà descendu au niveau de l'une des fugues et non plus de l'architecture présupposée de l'ensemble de l'œuvre. On va regarder de près l'exposition, la réexposition, le sujet et la structure de son contre-sujet, qui sont deux thèmes mélodiques qui s'entrecroisent, luttent l'un contre l'autre et en même temps se supportent l'un l'autre. De la même façon qu'au Go, des groupes de pierres se supportent l'un l'autre, combattent l'un contre l'autre, un peu comme également dans un concerto, le soliste lutte contre l'orchestre, l'imagerie classique, ou dans la 9e symphonie, le chœur alterne, se superpose, se repose sur l'orchestre, et réciproquement l'orchestre se repose sur le chœur. De la même façon, des groupes au Go, des groupes de pierres qui sont en train de combattre, s'appuient l'un sur l'autre, s'agressent l'un l'autre, pour normalement terminer, non pas par la défaite, comme c'est le cas aux échecs, mais par la construction de l'un et de l'autre. C'est peut-être une des choses les plus intéressantes et les plus remarquables d'Hugo, c'est un jeu constructif. Les groupes luttent pour leur survie, et lorsqu'ils arrivent à survivre, ils sont vivants pour toujours. Ils sont en état d'équilibre. De la même façon, deux thèmes musicaux qui sont en principe opposés l'un à l'autre. Lorsque Bach écrit une fugue de l'art de la fugue, il utilise toujours le même thème de base, mais associe à ce thème de base une très grande variété de contre-sujets, comme on les appelle en musique, c'est-à-dire de mélodies très distinctes du sujet, qui s'opposent à ce sujet, mais qui sont en même temps faites pour le supporter.
Il m'a toujours semblé qu'on pouvait assimiler une ligne musicale, une ligne mélodique, à une ligne de pierre sur le goban.
Ah ! Tu as trouvé mon idée. La dernière idée qui m'est venue, Paul, je vais pousser encore un peu plus loin, peut-être l'as-tu trouvé aussi. Ça m'a frappé, c'est une découverte que j'ai faite il y a quelques jours seulement. La forme traditionnelle des notes de musique sur une partition imprimée.
Les noires et les blanches.
Les noires et les blanches, comme les pierres de Go. Mais surtout, elles ne sont pas rondes, elles ne sont pas carrées. Les notes de musique, dans les graphismes propres de nos imprimeurs, sont ovales, exactement comme les pierres de Go. Un joueur de Go ne supporterait pas de jouer au Go avec des pions de dame. Ils sont cylindriques. On ne supporterait pas de jouer avec des billes. On ne supporterait pas de jouer avec des carrés ou avec des morceaux de sucre. On peut supporter de jouer avec des cailloux du genre des galets qu'on trouve au bord de la mer. On dit même que l'origine du jeu de Go vient des pays, la limite entre la Chine et le Tibet, à des endroits où on trouvait des cailloux, blancs ou moins blancs, arrondis par l'érosion, et qui donnent ces formes qui nous sont familières sur les plages où les galets sont agréables. Il m'est arrivé de jouer au Go en vacances avec des cailloux de bord de mer soigneusement choisis. On a vite fait de faire un jeu de Go avec ça. Et de plus, elles sont posées sur le goban de telle sorte que quand on les voit de profil, on n'est jamais au-dessus, à la verticale du goban, on est de profil sur le goban, on les voit avec à peu près la forme d'une note de musique sur une portée. Sais-tu d'ailleurs que l'effet de perspective sur un goban est fondamental?
On sait très bien que le goban n'est pas du tout carré, qu'il est en fait légèrement rectangulaire, et qu'on place le goban de façon à ce que le côté long soit entre les joueurs et les côtés les plus courts face à chacun des joueurs, et non pas dans l'autre sens. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une tradition.
Ah, tu ne sais pas pourquoi?
Non.
Précisément pour que l'effet de perspective produit par le fait que nous ne sommes pas au-dessus du goban, mais à côté, nous donne l'impression que ces rectangles deviennent des carrés.
Ce mystère, cette émotion qui fait que la main a peine à ne pas trembler quand elle pose sa pierre,
cette fascination qui naît lentement puis s'impose à jamais jusqu'à devenir obsession, sinon angoisse. Cette beauté ultime qui à tout instant anime l'espace inerte où les adversaires s'affrontent, de toute la sauvagerie des escarmouches locales, de toute la quiétude des espaces protégés, de toute la subtilité des pièges longtemps ourdis, déployant dans l'espace et dans le temps le sortilège de figures aux mille renversements, nous aimerions ici, maintenant, un instant, les faire partager. Mystère des yeux et des groupes imprenables. Mystère du Tsumego, qui préside à la vie ou à la mort des pions. Mystère des chichos, dont, les ayant enfin percés, nous tirerons la base de nos premières tactiques, comprenant qu'on peut menacer sans attaquer, se protéger sans gaspiller. Mystère du Ko, qu'il faut, dit-on, 4 ans pour percevoir, 8 ans pour affiner. Mystère du Sente, où chaque coup que l'on joue oblige l'adversaire à vous répondre, mais que l'on perdra sans savoir ni quand, ni comment, ni pourquoi. Plus tard, nous apprendrons à commencer. Mystère des Joseki, énumérés dans de colossales compilations que nous ne verrons jamais, auxquelles de toute façon, nous ne comprendrions rien. Mystère des Fuseki, qui font dire que tout est joué après le 40e coup. Jamais, jamais nous ne saurons finir. Les finesses du Yosé nous seront toujours opaques. Jardin aux sentiers qui bifurquent, labyrinthe, jeu de Babel. Chaque progrès est décisif et chaque progrès est nul. Nous n'aurons jamais fini d'apprendre. Mais un jour, nous saisirons, dans une intuition qui sera pour nous le plus haut degré de conscience que l'on peut avoir du jeu, que l'on ne sait jamais vraiment si l'on a joué le coup qu'il fallait jouer ou si on l'a joué là où il fallait le jouer.
Cette dimension esthétique, cette suite ininterrompue de mystères logiques a fait dire à certains que le Go n'était pas programmable. Cependant, de nombreux chercheurs se sont attaqués au problème de la réalisation de programmes informatiques, dans la mesure où, le hasard n'intervenant pas, dans une partie de Go, il semblait possible d'introduire dans un ordinateur toutes les données nécessaires à la connaissance et au développement du jeu. Il apparaît que ces tentatives sont restées jusqu'à maintenant extrêmement décevantes.
Je me suis intéressé effectivement à une certaine période.
Pierre Raoutchev.
Je m'intéresse encore un petit peu, disons, à l'informatisation du Go.
Enfin, là où est-ce que vous en êtes?
Moi, j'ai arrêté, là.
Et il y a des gens qui continuent à chercher des programmes?
Ah oui, il y a eu une compétition l'été dernier au championnat d'Europe à Grenoble. Je pense qu'il doit y avoir 2 compétitions annuellement maintenant, avec des prix qui devraient aller en montant.
C'est-à-dire des compétitions de logiciels?
De programmes, oui, de logiciels, oui.
C'est ça.
Mais ils ont encore probablement des défauts un peu trop graves. Bon, ils vont peut-être jouer 5-6 coups de suite complètement incohérents.
C'est le problème de programme.
Je ne pense pas que ce soit, comme on a dit à un moment, que ce genre de choses, on n'arrivera jamais à s'en débarrasser. Je pense que c'est une question de temps. Simplement, c'est des choses auxquelles il faut s'atteler, parce que c'est désagréable d'avoir un programme qui joue bien et puis qui sort une merde de temps en temps, quoi.
Mais est-ce que le joueur de Go, quand il joue contre un ordinateur, est-ce qu'il n'est pas frustré d'un certain plaisir de la relation avec celui qui est en face?
Non, je crois que les gens ont du plaisir à jouer avec les ordinateurs. Beaucoup de plaisir. C'est amusant parce que c'est une machine. Et ensuite, c'est du travail derrière qui a été accompli par une équipe. Quand on voit un nouveau programme, on voit ce qui a été changé. C'est comme si on avait un nouveau joueur qu'on a laissé en plan pendant 3 mois, qui est en train d'apprendre, et puis on voit ce qu'il a appris depuis, sur quel point il a progressé, les endroits qui bloquent et tout. C'est très intéressant.
Pour l'œil qui voit des pions de Go, ces pierres sont des pions de Go. Pour ceux qui voient avec la pensée, c'est le centre de l'univers.
J'ai appris le Go et j'ai joué au Go. Et j'ai jamais été intéressé, enfin, par tout ce qu'il y avait autour, disons, le discours sur le go. Bon, ce qui en était répandu un peu dans les médias la plupart du temps, je trouvais ça nul. Ça me paraissait plus intéressant que les gens apprennent à jouer, qu'ils en sachent plus réellement sur le go, et à ce moment-là, ils poseraient plus ces mêmes questions. Et en fait, c'est en travaillant sur le programme, justement, pendant 3 mois, que j'ai ouvert l'univers du go. À un moment, j'ai eu l'impression de me trouver dans un corps, au sens biologique du terme, et de me balader dans les cellules du go. J'avais des petits dessins que je faisais, et je me disais, et là, à tel point, il y a tant d'impact, tant de choses qui se passent, telle interaction par rapport à telle autre cellule qui est là, par rapport à telle groupe qui est structuré de telle et telle manière, c'est structuré, on sait qu'il y a les formes au go, ces formes-là, pourquoi, etc., elles fonctionnent, c'est pas uniquement de la physique, c'est aussi de la biologie, et j'essayais de comprendre ça. De la biologie, on passe aussi quand même à la physique, d'une certaine manière, et je suis carrément sorti du terrain au bout d'un moment, c'est-à-dire que pour comprendre ce qui se passait à l'intérieur du terrain, j'avais besoin de savoir en quoi les frontières avaient une action sur ce qui se passait à l'intérieur. De faire comme si c'était un espace non fini.
Illimité.
Disons oui. Illimité, sans turbulence ni rien. Et puis on introduit les frontières et savoir qu'est-ce que ça donne. Donc il y avait une information au départ qui tout d'un coup se retrouvait à l'extérieur et qui d'une manière influençait l'intérieur. Comme si on avait un grand cube, mettons, qui a un produit à l'intérieur qui soit... Enfin, des molécules, c'est gazeux, c'est visqueux, c'est quoi ? Quelle est la forme que ça prend ? Qu'est-ce qui se passe dans les coins ? Qu'est-ce qui se passe sur les bords ? Qu'est-ce qui se passe au centre ? Indépendamment de l'existence de la matière que sont les pierres. Et puis, pouf, tout d'un coup, on injecte une pierre. Qu'est-ce que ça donne ? S'il y a une turbulence, la pierre, elle se met là, et bon. Et puis, le monde revient, à part que la pierre a été posée. Pour le joueur, c'est immédiatement stable, mais dans un système physique, mettons, ça a des interactions, et puis ça revient à quelque chose de stable. Et c'est comme ça que j'ai essayé de comprendre le jeu pour pouvoir le traiter de manière informatique. Et c'est aussi ça qui a fait qu'en fait, je me suis rendu compte de l'énorme relation qu'il y a entre le Go et le Yin, le Yang, le Yi King et tout.
Lorsque l'arbre bouge, l'oiseau s'envole. Lorsque le poisson est surpris, l'eau devient boueuse.
Nous touchons là au domaine des ondes, des énergies, du mouvement des corps ou des particules. Domaine où coexistent les sciences, les arts, les philosophies et les métaphysiques.
Tout à fait. Là aussi, on peut faire un rapport, disons...
Marc Kalinowski.
Le livre des mutations, avec la philosophie chinoise en général, c'est cette notion d'énergie que les Chinois associent avec la nature dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des énergies indifférenciées, c'est-à-dire principalement les énergies qui sont là à l'origine, dans le vide. Le vide n'est pas une étendue, mais c'est plutôt un espace qui se définit comme étant, si vous voulez, un ensemble d'énergie neutre. Et cet espace, ces énergies vont se différencier peu à peu. Alors, tout d'abord, en énergie yin et yang, donc, que l'on peut comparer avec les pions blancs et noirs du jeu de Go. Et c'est ce jeu entre le yin et le yang qui va développer les différentes configurations de l'espace, qui va en déterminer le mouvement, non pas en déplaçant les pions eux-mêmes, mais par, si vous voulez, les ajouts de pions au fur et à mesure du déroulement de la partie, qui sont vus d'un point de vue cosmologique comme faisant partie de la même famille d'énergie. C'est-à-dire tous les pions noirs ne forment en somme qu'un seul pion, qu'une seule entité qui va se déplacer en rapport avec l'autre élément, l'autre entité, qui sera celle des pions blancs, qui représentera donc le yang, et il y aura constamment un jeu à la fois entre le rapport du même au même, c'est-à-dire des pions blancs avec les pions blancs, des pions noirs avec les pions noirs, et aussi un jeu du même à l'autre, de la différence des pions de couleurs différentes. Là, il y a aussi toute une représentation pour le joueur, si vous voulez, qui s'intéresse à l'aspect métaphysique du jeu. Il y aura, dans cette manipulation des pions, des démiurgiques, si on peut dire, des énergies de la nature, si vous voulez.
Lim Yujong.
Lo Yiking étudie, essaie de prévoir les mutations du monde.
Oui.
Mutations du monde.
Prévoir les mutations du monde.
Monde.
Très bien.
Souvent, ça devient péjoratif. Pour prévoir le destin d'un individu. C'est erroné. Tous les pères de Yiking n'ont jamais essayé de prévoir leur destin à l'avenir. Toujours pour prévoir le destin d'une société.
Et on considère dans le Weiji, le Go, que les pierres représentent les individus et que l'ensemble des pierres représente la société.
C'est ça, oui.
La préface de Shenzhen Shiking, le classique chinois le mieux connu, traité de la profondeur hermétique du Weishi, dit
« Soyez vigilants, joueurs de Weishi, des choses imprévisibles. L'être et le néant se produisent en même temps. Le lointain et le proche viennent ensemble. Le fort et le faible se forment à la fois. Les gains et les pertes sont les deux facettes d'une même chose. » Une phrase du Yiking dit « Un homme de vertu, même en temps de paix, ne manque de pressentir un danger éventuel. Il reste prudent. Il n'est pas peureux, mais il craint qu'un péril ne survienne. »
Donc, il n'est donc pas hasard en classique chinois intitulé Shenzhen Qiking, c'est-à-dire Shenzhen, profondeur hermétique, alors Qiking, traité de Weiji. Et qu'un autre japonais, Gokyo Shumyo, Gokyo traité de Go, Shumo traité toutes les merveilles. La combinaison de ces deux mots fait la dernière phrase du premier chapitre Tao Te Ching Laozi. La profondeur hermétique est la porte de toutes les merveilles.
La profondeur hermétique est la porte de toutes les merveilles.
C'est ça. C'est la dernière phrase.
La dernière phrase du premier
chapitre Tao Te Ching Laozi.
Du Tao Te Ching.
Ouais. C'est pas
Laozi.
C'est pas par hasard. Maintenant, je dis, le Weiji illustre bien l'essence du taoïsme.
Oui.
C'est-à-dire quelque chose, la profondeur hermétique.
Mm-hmm.
Et la souplesse globale.
La profondeur hermétique et souplesse globale.
Dans le Weiji, il y a toujours de meilleurs coups.
Oui.
C'est imprévisible.
Les meilleurs coups sont imprévisibles.
Imprévisibles. Toujours, il faut penser. Toujours, il y a de meilleurs coups.
Oui.
Pas tellement visible, mais c'est très difficile à trouver. Bon, c'est la, disons, banalement, soit c'est la profondeur hermétique.
Oui.
Le coup souple domine le coup rigide.
Le coup souple domine le coup rigide.
Rigide.
C'est ça.
C'est vraiment, typiquement, c'est une caractéristique de Tao.
Que sait-on des interactions éventuelles entre le Go et les différentes écoles ou philosophies de l'Extrême-Orient?
Oui, alors de fait, la première chose qu'il faudrait peut-être dire, c'est qu'il y a un problème
Feldman.
Historique, c'est-à-dire que le Go est probablement plus ancien, même dans une forme déjà assez élaborée, que les philosophies extrême-orientales classiques, au moins confucianisme et taoïsme. Par exemple, Confucius fait effectivement déjà mention des joueurs de Go. Donc, il est possible malgré tout d'expliquer que le Go n'a été vraiment développé qu'après ces philosophies, mais ce n'est pas certain. Ce qui est certain, c'est que les aspects importants du Go ont été reliés aux philosophies taoïstes en particulier depuis très longtemps, que les gens en étaient pleinement conscients, que dans certains cas, on peut montrer que la théorie du Go à proprement parler a inspiré un certain nombre de penseurs, plutôt les penseurs militaires d'ailleurs. Et enfin, qu'une bonne partie de l'évolution du Go au Japon a été faite sous la pression de sectes bouddhistes bien précises qui utilisaient le go de manière probablement méditative, dirons-nous. Et en tout cas, en particulier, pas dans le but de gagner ou de perdre, ce qui était le point de vue samouraï auquel on est plus familier. Donc ça, c'est le premier point qu'on peut établir, c'est qu'il y a effectivement des rapports connus, mais ces rapports ne sont pas simples.
Et cependant, lorsqu'un joueur de go se met devant un goban, même s'il a un objectif de méditation, il sait très bien que ça ne pourra être efficace que s'il s'efforce de gagner sa partie.
Oui, d'autant qu'à vrai dire, les choses sont encore plus simples que ça actuellement. Il y a de moins en moins de gens qui méditent avec le go. De fait, on vit dans une époque où le gros de la tradition du go au Japon se fixe maintenant sur l'aspect « il faut gagner » et le grand joueur de go est plutôt une vedette sportive qu'un modèle de sagesse asiatique.
Oui, mais ça, c'est un phénomène commun à tous les arts martiaux.
Probablement. Enfin, il en reste pour moi qu'il y a encore une forte tradition de, je dirais, de mysticisme martial, du genre effectivement zen et tir à l'arc, des choses de ce genre, qu'on ne trouve plus beaucoup dans le go. Enfin, est-ce qu'il faut réellement se concentrer sur le fait de gagner? C'est pas si simple. Il semble bien qu'on obtienne d'excellents résultats en essayant de jouer simplement les meilleurs coups. Et puis aussi, le go a un aspect extrêmement délicat, enfin, au niveau de sa nature propre, qui est le fait que toute violation de l'équilibre a tendance à être punie, qui fait qu'il est extrêmement difficile, et finalement, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a tellement de mal en tant qu'occidental à apprendre à y jouer. Donc il est extrêmement difficile de contenir à la fois les deux objectifs consistant d'une part à gagner, effectivement, à un meilleur résultat que l'autre, et en même temps à respecter cet équilibre naturel, et en particulier à ne pas essayer de le démolir complètement, ce qui amènerait à une catastrophe. Alors à cause de ça, effectivement, il semble bien que la façon la plus simple d'aboutir à ce respect de l'équilibre soit de ne pas trop s'investir dans sa couleur. Il ne faut pas trop vouloir gagner finalement. Peu importe le décalage, c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir ne serait-ce qu'un point de plus que l'adversaire pour avoir gagné. Bon, ça c'est une première remarque qui fait qu'il n'y a déjà pas de raison a priori de chercher l'effondrement de l'autre puisqu'il s'effondrera tout aussi bien si on l'a battu d'un point. De ce point de vue-là, c'est une première raison. Mais une deuxième raison, qui elle est technique, il s'avère qu'il est presque impossible d'obtenir, d'espérer même, une victoire supérieure à un ou deux points, disons, compte tenu de la disposition initiale des forces, c'est-à-dire rien, du fait que le jeu est très symétrique, il a une nature essentiellement symétrique, du fait qu'on sait que l'avantage initial, le fait de commencer, rapporte assez peu de choses, et que le système de compensation le ramène encore moins de choses, ce qui fait qu'on voit, et on a vu très souvent, des parties, voire des tournois entiers gagnés par des séries de victoires de très petite valeur. Comme si ça ne suffisait pas, il y a en plus une assez grande satisfaction esthétique à avoir dominé l'adversaire en le maintenant continuellement du mauvais côté de l'équilibre, mais à une infime marge près. Bon, mais ça, de fait, ça pourrait être simplement une pratique des joueurs. Mais il s'avère que toute tentative d'en faire plus, par exemple de gagner, disons, de 15 ou 20 points, à moins que l'adversaire se soit effectivement montré nettement inférieur, mais entre joueurs de même force, cette tentative est précisément le germe de la perte presque inévitable qu'on va subir, exactement de la même façon que dans certaines disciplines martiales, le joueur qui essaye d'attaquer son adversaire se voit mis en déséquilibre et peut se retrouver contré.
C'est dans une certaine mesure l'avidité qui est l'adversaire prioritaire.
Oui, incontestablement, il ne faut pas en vouloir trop au go. Le problème, c'est surtout qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on a droit à prendre et qu'est-ce qui est au-delà de l'acceptable, qu'est-ce qui serait démesuré. Et le problème de la démesure est continuel.
Masumi Yoshida.
Dans la partie de go, si on a trop de désir, ça c'est vraiment péjoratif. Il faut surtout trouver du raisonnement pourquoi on a besoin, combien de points on a besoin pour avoir victoire. Ça veut dire que pour avoir un point de plus, ça suffit pour gagner la partie. Exactement. C'est pas la peine, on prend 40 points, 50 points d'avantage. C'est pas la peine, c'est un point de plus, ça suffit.
Cela dit, effectivement, en même temps, il faut en vouloir le plus possible. Et ça encore, c'est une notion qui est très difficile à cerner parce que presque naturellement contradictoire. Les images taoïstes, bon, sont des images essentiellement de partage équilibré du monde entre des forces non pas vraiment contradictoires au sens manichéen du terme, c'est-à-dire bien et mal, ou blanc et noir, mais simplement des forces qui, par leur équilibre, engendrent l'ensemble du monde. Alors effectivement, on peut considérer que la lutte finale du blanc et du noir aboutit à un repos tout aussi final, équilibré, et qui a complètement partagé et formé le monde. Effectivement, d'ailleurs, on peut voir le go comme un jeu de création à partir d'un ensemble qui est informé vide au départ et où petit à petit apparaissent des formes jusqu'à ce que finalement tout se cristallise dans une espèce d'harmonie finale qu'il n'y a plus qu'à compter. Seulement, ça c'est un très joli point de vue, incontestablement, mais il ne reflète pas le désir des joueurs de gagner ou de perdre. Et c'est à cet endroit-là que s'introduit l'aspect zen éventuel, c'est-à-dire la question de savoir en quoi cette jolie pratique esthétique consistant à poser des pions blancs et noirs sur un quadrillage se transforme en une espèce d'affrontement à mort, et c'est un affrontement à mort, c'est-à-dire qu'il est bien évident qu'on gagne peut-être d'un point, mais qu'une fois qu'on a gagné d'un point, on a gagné absolument et que l'autre n'a plus éventuellement qu'à se suicider, comme il l'a fait historiquement les jours où ce qui était en jeu était un titre majeur, voire Comment est-ce que le joueur va se débrouiller avec ça? Parce qu'entre ce monde d'harmonie, de calme et d'équilibre, et puis la nécessité qu'il peut avoir de gagner sa vie, de mettre à mort un rival malchanceux, de décider sur une partie de go du sort d'un empire ou n'importe quoi de ce genre, ben, y a un problème. Et alors là interviennent justement toutes les hypothèses, toutes les images philosophiques zen, bouddhistes déjà et zen, sur l'aspect vide intérieur à faire, sur l'aspect recherche en soi d'une espèce de non-personnalité, d'harmonie, d'équilibre avec l'autre, ou encore aussi, d'un autre point de vue, le fait d'essayer d'englober l'esprit de l'adversaire, de ne plus faire qu'un avec lui, et ainsi de suite. Tout un ensemble d'idées qui sont des images classiques et qui incontestablement ont été utilisées, par exemple, dans la période bouddhiste déjà mentionnée, où bon, les maîtres utilisaient le go comme une forme de méditation, effectivement.
En définitive, l'une des clés du jeu de Go réside peut-être dans le mot sanskrit vidya. Pour éclairer notre propos, éclairer est bien le terme propre puisque vidya signifie clarté, nous traduirons un extrait d'un article publié par William Pinkard dans la revue Go World.
L'un des principes de la philosophie bouddhiste fonde la cause de toute souffrance dans l'incapacité à percevoir la nature réelle des choses. Chez l'homme, cette incapacité provient d'une tendance à la cupidité qui obscurcit les sens et engendre un état de confusion que l'on nomme en sanskrit avidya, absence de clarté.
Certes, Pinkard ne traduit pas avidya par avidité, mais l'assonance vaut d'être notée au passage, puisque dans le jeu de Go, chacun nous l'a répété, à trop vouloir gagner, on risque de tout perdre. Continuons la traduction.
Lorsque cette tendance est supprimée,
il est question donc de la tendance à la cupidité ou à l'avidité.
Lorsque cette tendance est supprimée, avidya devient vidya, éclat, lumière, perception claire, qui est la condition première du satori. Dans les textes bouddhiques japonais, absence de clarté se dit mumyo. On retrouve dans mumyo la racine du mot mushin, qui signifie littéralement « no mind », sans pensée, la pensée étant alors le lieu où opère la tendance à l'avidité. Mushin évoque ainsi un état où on ne se cramponne pas, une condition de non-avidité, de calme, de quiétude, où les choses peuvent prendre leur forme réelle et être perçues correctement.
Ce détachement total qui seul permet vidya et satori ressemble fort à un idéal quelque peu inaccessible, comme en témoigne cette anecdote que rapporte Suzuki dans son essai sur le bouddhisme zen.
Pangyun demanda à Matsu « Quelle sorte d'être est celui qui ne s'attache à aucune chose ?»« Je vous le dirai, » répondit le maître, « lorsque vous aurez avalé d'un seul trait toute l'eau de la rivière de l'Ouest. »
Alors, le go peut-il au moins nous mettre sur la voie? Si maintenant nous continuons à écouter le langage, et sans prétendre à aucune recherche étymologique, après avoir aperçu l'avidité dans avidya, nous retrouvons dans vidya, d'une part, la notion de vide, no mind, la non-pensée, vide intérieur, qui se répercute sur la constitution d'espace vide sur le goban, et d'autre part, la racine latine video, voir, le regard, qui est l'essence même du go. Ainsi, et bien que personne parmi nos invités n'ait pris la responsabilité de l'affirmer ouvertement, nous pouvons penser que l'étude et la pratique du go développent en l'homme les mêmes disciplines intérieures que celles qui sont nécessaires à la recherche de ce que Pinkard appelle la nature réelle des choses.
Dōshi. Ku no naka kara ぽっかり姿を現し、永遠の生命をそのまま生きる。
Du vide, une forme apparaît soudain. Vivre la vie éternelle comme un homme libre. Lao Tzu dépasse la voie en éclairant la voie. Il ne s'attache pas à la lumière au sein de laquelle il habite.
Jiu muko ni shite mui. Sono kokoro, hakari shirezu fukaku.
Vide,
hateshinaku hiroku.
Vide. Calme, calme, vide, calme, le calme. Ce qu'il fait, il n'en attend rien, il est libre. Son cœur est infiniment profond, infiniment grand. Sa force est au-delà du ciel et du temps. Elle secoue nos âmes et nous relie à la source de l'univers. Maintenant, Lao Tzu résonne en moi.
Goi Masihisa, mort en 1980.
La matinée des autres. Le jeu de Go par Annie Mancio et Paul Amar. Avec la participation de Pierre Aroutcheff, Philippe Coppet, Pierre Decroix, Denis Feldman, Bernard Govy, Marc Kalinowski, Lim Yu Jong, Masumi Yoshida, Jacques de Panafieux. Avec les voix de Sachiko Laloum et Catherine Sola. Prise de son et mixage, Monique Pratt, Jean-Mathieu Zande. Réalisation, Maurice Audran.